de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le G20 doit être un catalyseur pour élever l'esprit de collaboration, a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères. L'Indonésie appelle le G20 à devenir l'avant-garde de l'aide humanitaire. La réunion du mouvement des non-alignés en Azerbaïdjan a discuté de la reprise post-pandémique. INACRAF 2023 organise divers programmes en dehors des expositions. Les artisans du meuble de Jepara visent les pays africains. Vo Van Thong a été élu nouveau président du Vietnam. L'Azerbaïdjan a alloué 15,2 milliards de rupiah pour la reprise post-pandémique. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé le G20 à devenir un catalyseur pour raviver l'esprit de collaboration mondiale. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi, en Nantes, jeudi, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno, a souligné qu'un esprit de coopération était nécessaire de toute urgence pour répondre aux défis mondiaux actuels. Ainsi, la déclaration écrite a été publiée par le ministère indonésien des Affaires étrangères. Retno Marsudi a déclaré que le flux d'aide humanitaire de divers pays vers la Turquie, qui a été frappé par un tremblement de terre il y a quelque temps, montre que l'esprit de collaboration existe toujours. Selon Retno Marsudi, l'esprit de collaboration doit être maintenu pour accélérer la reprise mondiale et mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Indonésie encourage les pays du G20 à être à l'avant-garde de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans le monde. Cela a été transmis par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors de la deuxième session de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi, en Nantes, comme indiqué dans le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, jeudi 2 mars. La deuxième session de la réunion a porté sur le thème « La guerre contre le terrorisme, la cartographie des compétences mondiales, l'aide humanitaire et la gestion des catastrophes ». La ministre des Affaires étrangères, Retno, a mis l'accent sur la question humanitaire et la gestion des catastrophes. Retno Marsudi a rappelé que le G20 doit également encourager la mise en œuvre des engagements internationaux dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et de changement climatique, notamment l'agenda 2030, l'accord de Paris et le cadre de Sendai. L'Azerbaïdjan a accueilli jeudi à Bakou le sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés, MNA, qui a discuté de la reprise mondiale après la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que le leadership du MNA dans la mobilisation des efforts mondiaux a une fois de plus démontré l'influence et la responsabilité du mouvement. La réunion de haut niveau de Bakou a réuni des chefs d'État et de gouvernement d'environ 70 pays, dont la Bosnie-Herzégovine, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Irak, la Libye, Cuba, le Gabon, la Tanzanie, l'Algérie et le Kenya, ainsi que des représentants d'organisations internationales telles que l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, et l'Office des Nations unies à Genève. L'Association des exportateurs et producteurs d'artisanat indonésien, ASEPHI, en collaboration avec une société organisatrice d'événements, organise le Salon international de l'artisanat ou INACRAF au Jakarta Convention Center, JCC, du 1er au 5 mars 2023. L'exposition internationale de l'artisanat devrait atteindre l'objectif de 170 000 visiteurs, 140 milliards de ventes et de contacts commerciaux de 12 millions de dollars américains. C'est ce qu'a transmis Ubi Nur Widjiati, directrice de l'organisateur de l'événement A Voice of Indonesia à Jakarta Convention Center jeudi 2 mars. Umi Nur Widjiati a ajouté qu'outre l'exposition, INACRAF 2023 a également organisé plusieurs programmes, entre autres des talk-shows, des séminaires et le prix d'INACRAF, ainsi que la signature d'une collaboration entre la SEPHI et le Maroc.
Jadi untuk tahun ini insight programnya banyak sekali selain pameran ya Bu ya.
Donc pour cette année il y a beaucoup de programmes insight. En dehors de l'exposition, il y a une ouverture automatique. Puis hier, mercredi, le premier jour, il y avait un talk show du gouvernement du Sud de Sulawesi. Monsieur le gouverneur, l'un des conférenciers avec le sujet « Soulever la gloire de soi du Sud de Sulawesi ». Puis jeudi, il y avait un séminaire sur le patrimoine culturel immatériel, les indications géographiques pour ces produits. Ensuite, tout à l'heure, nous avons eu la réunion du conseil d'administration de la HPADA. HPADA est l'association pour la promotion et le développement de l'artisanat de l'ASEAN. Puis, demain, vendredi, à 2h, il y a une signature de la SEPHI avec le Maroc pour la coopération promotionnelle sur l'artisanat. La nuit, il y a un prix d'INACRAF. Umi Nur Widjiati a ajouté que samedi 4 mars, il y aura une visite d'étudiants de l'Université d'Indonésie à INACRAF, car en plus d'exposer, INACRAF est également utilisé comme laboratoire étudiant, en particulier les étudiants se spécialisant en MICE, Meeting, Incentive, Convention and Exposition. L'exposition INACRAF 2023 a réuni 1200 participants de toute l'Indonésie qui ont présenté leurs produits de qualité supérieure à l'exposition comme moyen de promotion pour élargir les marchés nationaux et étrangers. L'un des exposants, Kipti, membre de l'Association des exportateurs et producteurs d'artisanat indonésien, ASEPHI Jepara, et les entrepreneurs engagés dans le mobilier, l'artisanat du bois et la décoration, font d'INACRAF 2023 l'occasion de présenter leurs produits aux consommateurs nationaux et étrangers. À Voice of Indonesia, Kipti a déclaré que ses produits ont été exportés vers 4 continents à l'exception de l'Afrique. Il a commencé à considérer le marché africain comme un marché potentiel. Si nos exportations se font déjà sur 4 continents, le continent africain ne l'est pas encore. Nous n'y sommes jamais entrés. Si on regarde le PIB actuel et la croissance économique des pays africains, je pense que je commence aussi à y regarder. Alors, ça signifie le nouveau marché très potentiel. Kipti a déclaré que grâce à INACRAF, il pouvait obtenir des acheteurs locaux et internationaux. Par exemple, à INACRAF en avril dernier, il a obtenu un acheteur de Marthe. Pendant ce temps, Huda, un artisan du tissu tissé trousseau de Jepara, a déclaré qu'il n'avait jamais trouvé d'acheteur étranger à grande échelle. Il espère que grâce à INACRAF, il pourra obtenir des acheteurs non seulement localement, mais aussi à l'international. Vo Van Thuong a été élu jeudi nouveau président du Vietnam, selon Vietnam News, cité par Anadolu. L'Assemblée nationale du Vietnam a adopté une résolution élisant Thuong comme nouveau président de la nation d'Asie du Sud-Est. Thuong, 53 ans, est le plus jeune président de l'histoire politique du Vietnam et le plus jeune parmi les 16 membres actuels du Politburo du Parti communiste. Tuong originaire de la province de Vinh Long est titulaire d'une maîtrise en philosophie. Dans son discours d'investiture, Tuong a juré allégeance à la patrie, au peuple et à la constitution de la République socialiste du Vietnam. Ses auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « En attendant, traite de la proposition de paix de la Chine ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers auditeurs, la Chine a fait une proposition en 12 points pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne en cours. Le plan de proposition de paix publié par la Chine la semaine dernière appelé à la poursuite des pourparlers de paix et au respect de la souveraineté de tous les pays, ainsi qu'à la condamnation des sanctions unilatérales imposées à la Russie. La proposition de paix de la Chine a reçu diverses réponses de plusieurs dirigeants mondiaux. Il y a ceux qui répondent positivement en le soutenant, certains sont pessimistes. L'un des dirigeants du pays qui soutient la proposition de paix de la Chine est le premier ministre hongrois, Viktor Orban. Orban a déclaré devant le Parlement hongrois que le plan de paix de la Chine était important et devait être soutenu. Dans son discours d'une demi-heure, Orban a souligné que le conflit en cours n'est pas seulement mauvais pour l'Ukraine, la Russie, la Hongrie et l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Outre Viktor Orban, le président biélorusse Alexandre Loukachenko soutient également le plan de proposition de paix de la Chine. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, lors d'une réunion avec Xi Jinping à Pékin, mercredi le 1er mars 2023, a appelé à un cessez-le-feu et à des négociations pour parvenir à un règlement politique du conflit ukrainien. Contrairement à la Hongrie et à la Biélorussie, Les pays occidentaux et les États-Unis ont réagi avec pessimisme et scepticisme au plan de paix proposé par la Chine. Le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que Pékin n'avait pas beaucoup de crédibilité en tant que médiateur. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken, mercredi 1er mars, cité par VOA Indonesia, le 1er mars, a exprimé des doutes sur le sérieux de la Russie et de la Chine dans la réalisation de la paix en Ukraine. Il a déclaré que les deux pays n'avaient pas encore pris de mesures substantielles pour soutenir leur déclaration. La proposition de paix de la Chine est en fait intéressante et pourrait être l'une des solutions pour mettre fin à cette guerre prolongée. Il n'y a rien de mal à être accueilli positivement et avec optimisme. Cette proposition pourrait être un très bon début pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. On espère que la Chine prendra au sérieux sa proposition et donnera suite à ce bon début, en mettant en œuvre des mesures concrètes. Ce n'est qu'alors que le monde croira aux efforts de la Chine pour désamorcer les flammes actuelles de la guerre russo-ukrainienne. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Et nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 3 mars 1923, première publication du magazine Times aux États-Unis. Sergio Etard, le premier numéro du magazine Time a été publié le 3 mars 1923 avec Joseph G. Cannon, membre de la Chambre des représentants des États-Unis en couverture. Time est apparu plus tôt que ses concurrents, créant un format de magazine d'information hebdomadaire. Time a été fondé en 1923 par Britton Haddon et Henry Luce. Les deux avaient travaillé ensemble à Yale, étant rédacteurs en chef et président du Yale Daily News. Haddon est décédé en 1929 et Luce est devenu une figure majeure de Time et une figure majeure des médias du 20e siècle. Haddon était une personne insouciante et trouvait Time à la fois important et amusant. Cela a également affecté son contenu, qui est parfois considéré comme trop légère pour des nouvelles sérieuses. Nous continuons avec l'événement du 3 mars 1924. L'Assemblée nationale turque abolit officiellement l'Empire ottoman. Ce jour-là, l'Assemblée nationale turque a alors approuvé l'abolition du Khilafat et la séparation de la religion des affaires de l'État. L'accord a immédiatement aboli l'Empire ottoman, qui avait régné pendant des siècles. Le personnage le plus mis en évidence pour cet effondrement est Mustafa Kemal Atatürk, qui est actuellement également appelé le père de la Turquie ou l'initiateur de la République de Turquie. Il est également connu pour être le plus virulent dans les propositions à l'Assemblée nationale concernant l'abolition du califat, l'expulsion du calife et la séparation de la religion des affaires de l'État. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 3 mars. commémoration de la Journée mondiale de la vie sauvage. Chers amis, l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 2013 a proclamé le 3 mars Journée mondiale de la vie sauvage. Cette mise en garde vise à sensibiliser aux dangers qui représentent les activités humaines et le changement climatique pour la faune et la flore. Son élection, le 3 mars, fait référence à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d'extinction qui a été adoptée le 3 mars 1973. Bon, chers jeteurs, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui. Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie. Et pour le titre, l'Indonésie a reçu une subvention de 5,5 millions de dollars américains de la Corée pour accroître la capacité des PME. Le gouvernement indonésien a reçu des subventions sous la forme d'une collaboration sur l'adoption d'usines intelligentes et la formation des ressources humaines d'une valeur de 5,5 millions de dollars américains ou environ 80 milliards de roupias de la Corée du Sud pour augmenter la capacité des petites et moyennes entreprises PME. Comme cité sur la page Antara, 28 février, Hanung Harimba Rahman, adjoint aux petites et moyennes entreprises PME du ministère des coopératives et des PME, a déclaré que la coopération du projet d'aide publique au développement APD entre le gouvernement indonésien et le gouvernement sud-coréen devrait être en mesure d'aider les PME locales à adopter l'écosystème industriel 4.0 avant qu'elles puissent entrer dans la chaîne d'approvisionnement industriel. Il a déclaré cela après la signature d'un protocole d'accord entre le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises et l'association Innobiz de Corée concernant ce projet à Jakarta mardi. Dans ce projet, il y aura 30 PME recommandées par le ministère des coopératives et des PME pour recevoir information sur l'adoption des usines intelligentes construites dans les universités. De plus, 100 experts recevront information sur les opérations d'usines intelligentes dans le cadre d'une collaboration qui durera les 4 prochaines années. Certaines PME sont également ciblées pour pouvoir participer au programme, notamment le secteur de l'automobile, de la fabrication, de l'alimentation et des boissons, du textile, de l'électronique, de la chimie et de l'agriculture. Pendant ce temps, le responsable de la politique de l'Institut Innobiz, Seo Jong Kim, a expliqué qu'un certain nombre de services d'usines intelligentes sera construit à l'université afin qu'il y ait une coopération concernant le programme de formation. Seo Jong Kim a également déclaré que sa partie avait construit 30 000 usines intelligentes en Corée. L'Institut Innobiz les invitera en Indonésie pour partager des expériences ou vice-versa. Ils pourront aussi le voir directement la Corée. Il espère que ce programme pourra accroître la capacité des PME en Indonésie. On espère que la collaboration avec Innobiz, qui est une institution de certification des PME en Corée du Sud, pourra aider le gouvernement indonésien à développer des programmes, des recherches et des politiques liées à la certification des PME qui sont réalisables et conformes à l'écosystème commercial en Indonésie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku, hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga di dunia.
telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersaya. Itu kamu di dalam hatiku.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonsoir, vous écoutez maintenant l'émission de magazine culturel intitulée Place de Tanjung Tihu avec moi Audrey. Chers amis, Bone Bolango est l'un des districts de la province de Gorontalo. Cette région est directement adjacente à la baie de Tomini, une baie de Sulawesi qui possède une richesse marine abondante. Il n'est donc pas surprenant que Bone Bolango soit dotée de nombreuses belles plages. L'un d'eux est la plage de Tanjung Tihu. Il est situé à environ 34 km de la capitale provinciale de Gorontalo. Il a fallu environ une heure de route pour y arriver. Pendant le voyage, vous pourrez profiter du magnifique paysage de la baie de Tomini, des villages et des collines de la côte. Le billet d'entrée à cette plage est très bon marché. Seulement 3000 de roupies par adulte et 2000 de roupies pour les enfants. Alors que le stationnement est gratuit. La place de Tanjung Tihu a l'attraction principale, à savoir le sable blanc et les rochers charmants. Le sable est d'un blanc pur, avec une charmante eau de mer bleue. Les vues sur les collines et les rangées de cocotiers ajoutent à la beauté de la plage de Tanjung Tihu. Vous pouvez profiter de la beauté de cette plage tout en la capturant avec votre appareil photo. Il existe en effet de nombreux spots photo instagrammables fournis par les gestionnaires de plage. Chaque tard, lorsque vous vous rendez à la plage de Tanjung Tiu, n'oubliez pas de profiter de la fraîcheur de l'eau de mer en vous baignant. Les installations touristiques de la plage de Tanjung Tiu sont assez complètes. Il a un belvédère et une maison sur pilotis en bois construite par le gérant. Pour louer le kiosque, vous devez payer 15 000 de roupies. De plus, une zone de camping est également disponible pour les visiteurs qui souhaitent passer la nuit. Le prix du séjour en camping est de 15 000 de roupies et il y a aussi une salle de bain spéciale pour les visiteurs touristiques. Bon chargeur tard, c'est tout le magazine culturel.
Kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. That when I say I love you, I really do. Suara indahmu itu. Jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. I really do. Cinta yang sama. You know I really, really do. Oh no, no. Ku hanya ingin kau untuk percaya. Ini bukan sekedar kata-kata. Cinta yang sama. Sorry.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde. Et cette fois, je vais vous présenter l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Université de Tarumanegara a remporté le top 3 des meilleures universités privées de l'ASEAN ». Vous êtes avec moi, Audrey. Serge Littard, Université de Tarumanegara, UNTAR, à Jakarta, a remporté les 3 meilleures universités privées en 2023 du classement des universités privées Applied HE Asian Plus. Le chancelier d'UNTAR, le professeur Augustinus Purna Irawan, a déclaré que les résultats du classement des universités privées Applied HE était une reconnaissance internationale de la performance d'UNTAR en tant que meilleure institution d'enseignement supérieur, pas seulement au niveau national mais également international. Il a ajouté que c'est une chose spéciale car c'est la première fois qu'il entre dans le classement des universités privées Applied HE, mais qu'il a immédiatement remporté les 3 meilleures universités privées. L'université de Tarumanegara est en concurrence avec d'autres campus qui ont participé plus tôt. Sur le tard, les résultats de l'évaluation d'UNTAR sont classés au 3e rang des universités privées de la région de l'Asie du Sud-Est et d'autres pays asiatiques, à savoir l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, Hong Kong, le Kazakhstan et Taïwan. ASEAN Plus. L'institution évalue les universités privées en fonction de l'enseignement et de l'apprentissage, de l'employabilité, de la recherche, de l'engagement communautaire, de l'internationalisation et de la réputation institutionnelle. Selon lui, les résultats de l'évaluation de l'université privée Applied HE ajoutent à la reconnaissance internationale de la performance d'UNTAR après avoir précédemment reçu 4 étoiles du QS Rating la même année. En outre, les résultats de l'évaluation de l'université privée Applied HE ajoutent à la reconnaissance internationale de la performance d'UNTAR après avoir précédemment reçu 4 étoiles du QS Rating la même année. Bon, c'est jeu d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Manusia tercipta sempurna. Perjuangkan harga dirimu dan raihlah cintamu dengan tekad kita bisa. Kita kuat, kita hebat. Aku kamu, kita istimewa. Semua hebat, bangkit kembali meraih mimpi. Musik.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.